Je lirai pour ce dimanche le texte du jour, juste l'évangile du jour, dans Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum et, une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Puis il le prit dans ses bras et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille seulement, mais celui qui m'a envoyé. » Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme ça à la première lecture ce matin, mais on entend 3 séquences dans notre passage. L'annonce de Jésus à ses disciples de la passion du Fils de l'homme. Qui est le plus grand des disciples ? La discussion, et s'inspirer de l'enfant pour notre foi. Alors pour notre méditation, je vous propose simplement de les commenter, toutes les 3, dans l'ordre où Marc nous les présente, dans ce chapitre 9. Alors on l'a entendu déjà la semaine dernière, des paroles de reconnaissance ont été échangées entre les disciples et Jésus. Quand Jésus leur dit « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre, au nom des disciples, répond « Tu es le Christ ». Tu es le Messie. Alors tout de suite après cette révélation de Pierre, toujours dans le chapitre précédent, il commence à les enseigner sur ce qui doit arriver à ce Messie. Il doit être livré aux anciens, aux scribes, aux sacrificateurs, il va souffrir, mourir et ressusciter 3 jours après. On se souvient de la réaction de Pierre qui a dit « Mais non, ça ne t'arrivera jamais ça ». Et puis vient l'épisode de la transfiguration, au début de notre chapitre 9, où Pierre, présent encore avec Jacques et Jean, reçoit une sorte de révélation, c'est une révélation pour les disciples. Et juste après cet épisode, Jésus insiste, comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et Marc précise... Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Ils ne comprennent pas. Alors il y a un épisode là de démons chassés, et puis vient enfin notre passage où Jésus en remet une couche, car il enseignait ses disciples et leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Et Marc ajoute « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. » Ils ne comprennent toujours pas ces paroles lourdes et profondes que Jésus essaye de partager avec eux, de leur communiquer. Et finalement, qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas étonnant parce que l'image qu'ils avaient dans leur tête et dans leur culture du Messie qui devait venir, c'était une venue glorieuse, visible, manifeste, puissante. Et ça ne pouvait absolument pas correspondre avec ce que Jésus leur annonçait de son propre avenir. Et c'est pourquoi Pierre lui avait dit « Mais non, ça ne t'arrivera pas. » Et rappelez-vous, Jésus le rabroue assez durement. Pierre et les disciples, ce qui se passe, c'est qu'il leur faut lâcher prise avec cette idée toute faite qu'ils ont du Messie et qu'ils trimballent de leur culture et qu'ils ont accepté telle quelle. D'ailleurs, pour adoucir un peu le propos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans tous ces passages, pour leur permettre d'accepter l'idée, Jésus n'emploie jamais le mot « Messie ». Il ne dit pas « le Messie doit mourir », il dit « le Fils de l'homme doit être livré et mourir ». Il emploie ce terme de « Fils de l'homme », peut-être pour faire passer l'idée de manière un peu plus douce pour eux. Mais rien n'y fait. Il est clair qu'une nouvelle compréhension doit se développer entre Jésus et les disciples. Pour eux, ça veut dire peut-être une nouvelle compréhension de Jésus, une nouvelle compréhension de ce qu'est le Messie, et peut-être, d'abord pour les disciples, une nouvelle compréhension d'eux-mêmes. Et justement, pour ça, il leur propose de vivre plus étroitement ensemble pour avancer dans cette double compréhension, et il les instruit. Mais franchement, ce n'est pas tant la difficulté des disciples à entendre, à comprendre cette annonce récurrente de l'enseignement de Jésus qui peut nous poser question, parce qu'on comprend à la limite cette résistance. On est encore avant la crucifixion et nous on connaît la fin de l'histoire, c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Mais ce qu'on saisit moins, en tout cas ce que je saisis moins, c'est qu'en ne comprenant pas, ils se ferment et n'osent pas l'interroger. Afin de comprendre, ils n'osent pas le questionner, ils n'osent pas parler avec lui ouvertement de ces sujets-là, alors qu'ils étaient seuls avec lui, pour une fois, sans la foule, sans tous ces malades qui viennent se faire guérir, sans être interrompus toutes les cinq minutes, sans être gênés par qui que ce soit, seuls avec Jésus, ils n'osent pas l'interroger. Alors que c'était parfait pour en savoir plus, c'était un moment vraiment idéal pour eux, et j'ai trouvé ça très étonnant. Et puis je me suis posé la question, mais finalement, est-ce que je ne fais pas un peu pareil moi-même lorsqu'une parole du Christ ne me rejoint pas ou que je ne la saisis pas ou qu'elle me dérange? Est-ce que je ne reste pas parfois, souvent, en silence, finalement sans interroger ce que je lis ou ce que je crois comprendre ou ce que je refuse d'entendre? Est-ce que je ne reste pas dans un silence qui refuse d'interroger? Et en y pensant, je me suis dit, c'est bien possible. Et si ça m'arrive à moi, est-ce que ça n'arrive pas aussi aux autres? À vous-même, parfois. Est-ce que nous n'avons pas souvent, un peu tous, tendance à nous contenter de ce que nous savons déjà? Ou croyons savoir? Interrogeons-nous vraiment le Christ sur ce que nous ne saisissons pas encore de lui, de Dieu, de la vie ou de nous-mêmes? Ou alors, comme les disciples, restons-nous silencieux devant lui? Et c'est pourtant le genre de mystère qu'on n'a jamais fini d'approfondir, le genre de question qui devrait se poser tout au long du chemin de nos vies. Mais non. Alors que Jésus essaie de les éclairer, ou en tout cas de les rendre curieux sur ses propos, les disciples, encore pleins d'eux-mêmes, sont dans bien d'autres préoccupations. Et pas vraiment étonnant que Jésus, qui devait marcher un petit peu à distance, puisse deviner facilement la vacuité des propos qu'ils échangent entre eux, alors qu'ils sont en chemin. Et c'est bien désolant, mais au lieu d'écouter, de questionner, de vouloir en savoir plus et de grandir, quand Jésus leur parle de choses profondes, en chemin, eux se comparent les uns aux autres. Et on le voit, sont en compétition pour savoir qui est le meilleur, le plus fort, le plus grand. Et cette séquence, dans mon esprit, entre totalement en résonance avec ce que nous partagions déjà la semaine dernière, lorsque Jésus fait cet appel, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et encore une fois, ne nous y trompons pas, ce que vivent les disciples, c'est ce que chacun de nous vivons. Et quand on marche dans la rue, là, juste derrière moi, Oxford Street, vous pouvez la parcourir dans n'importe quel sens, et c'est vraiment typique là, les gens seuls, parfois en couple, parfois même entre amis, mais surtout les gens seuls, ne peuvent pas marcher sans marcher le nez dans leur portable. Ils avancent comme ça, comme autant de signes de l'enfermement dans lequel finalement nous nous trouvons. Il leur faut vérifier peut-être dans l'instant s'ils sont aimés, commentés, appréciés sur Instagram, Facebook, TikTok ou que sais-je. Et c'est comme si nous étions en fait enfermés dans une tombe, mais tout va bien. J'ai mon portable, j'ai de la batterie, j'ai la Wi-Fi. C'est terrible. En fait, on n'en est pas tous là, bien sûr. On arrive, certains d'entre nous, à résister à cet attrait-là, à cet enfermement-là, mais tous, nous pouvons nous demander quand même ce qui nous coupe de l'autre, tout en donnant l'impression d'être très ouvert. Parce que notre intérieur fermé, dans cette petite boîte, nous empêche alors souvent d'être ouvert à l'extérieur, d'être ouvert à celui qui nous regarde, d'être ouvert à celui qui nous parle en live. Pour s'en sortir, retrouver le chemin de la vie, peut-être faudrait-il aussi s'arrêter de chercher les raisons de nos enfermements stériles à l'extérieur de nous-mêmes. De croire naïvement que ce que nous pensons, ce que moi je pense, est une vérité universelle. De reprocher sans cesse à l'autre qu'il n'est pas comme ceci ou comme cela, ou parce qu'alors nous sommes évidemment dans la comparaison, immédiatement nous revenons dans la comparaison. Mais il faudrait peut-être plutôt commencer à se considérer soi, à repérer ce qui en soi n'arrive pas à parler, n'arrive pas à questionner, n'arrive pas à dire ce qui peut-être nous a blessés, le reconnaître humblement, l'accueillir et se retourner vers l'autre dans cette nouvelle attitude, dans cette nouvelle disposition d'esprit et ainsi alléger, reprendre le chemin. Comme on le disait de lui la semaine dernière, Jésus sort chacun de nous de lui-même. Il nous déplace de nous-mêmes. Il veut toujours donner l'occasion à ceux qui l'écoutent de changer de regard. C'est une autre traduction, changer de regard, pour se convertir. Lorsqu'il dit « convertissez-vous », il dit « changer de regard », « changer de perspective ». Et il donne toujours l'occasion à ceux qui l'écoutent de faire ça. Alors Jésus s'assit, il appelle les 12 en particulier, parce qu'il y avait peut-être d'autres disciples avec lui, il appelle juste les 12 dans cette maison, et il leur dit, pour répondre à leur silence, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. » Alors un épisode qui n'est pas sans rappeler un autre moment plus tard, lors du dernier repas à Pâques, avec les disciples à Jérusalem, vous savez, où Jésus annonce encore à ses disciples la crise majeure qui se prépare, la trahison d'un des proches, la condamnation, la torture, la croix, la mort, puis la résurrection. Et eux, comme dans notre épisode du jour, ne voulant pas entendre, bottent en touche et cherchent à savoir encore qui parmi eux est le plus grand. Je pense que Jésus a dû se sentir très seul dans ce moment-là, alors il ne dit rien. Il ne dit rien, il se lève en silence, il va prendre une cruche, il remplit une bassine d'eau, il attrape une serviette au passage, va se mettre aux pieds de ses disciples, et comme un esclave, comme un serviteur, en silence, commence à leur laver les pieds, comme signe, comme réponse à ses disciples. Dans notre texte ce matin, pour déplacer ses disciples et pour répondre à leurs questions du plus grand, et les faire peut-être un peu réfléchir sur leur foi, il prend un enfant, un petit, et le place au milieu d'eux. Et les laisse réfléchir là-dessus, sans rien dire. Peut-être une parenthèse pour dire que le mot qu'utilise Marc ici pour traduire les paroles de Jésus, c'est celui de Païdon, c'est un enfant, mais un enfant, on va dire, entre l'âge de marché et 7 ans, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Mais c'est aussi, ça désigne aussi un jeune serviteur dans une maison, un très jeune serviteur. Alors il les laisse réfléchir un peu, Et puis, il prend l'enfant dans ses bras et il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits, me reçoit moi-même. » Alors au passage, comme il l'a fait pour les femmes, il donne toute sa stature à l'enfant, cet être humain en devenir. C'est en lui que se rencontre le Christ, comme dans le serviteur. Et non seulement le Christ, mais celui aussi dont il est la parole, celui qu'il a envoyé. Bonne nouvelle, les amis, leur signifie Jésus, pas besoin d'être une superstar pour être grand. Autrement dit, si vous voulez savoir parmi vous qui est le plus grand, c'est Dieu. Et Dieu, il est dans n'importe lequel de ces petits auxquels vous prêtez attention, que vous écoutez, que vous recevez en mon nom. Et recevoir en son nom, c'est nourrir, c'est prendre soin, c'est faire grandir, et grandir soi d'ailleurs aussi de l'échange et de la rencontre. Alors voilà une parole de Jésus qui pourrait déplacer le regard de ses disciples sur l'autre, sur l'enfant, sur le petit, sur le faible, le fragile de l'existence, mais aussi sur eux-mêmes, sur leur motivation, sur leur orgueil, sur leurs préjugés. Un déplacement aussi dans leur foi, dans leur manière de comprendre le Messie, loin de l'image qu'ils s'en font, mais une image certainement plus facile, plus accessible pour eux, comme pour tous les humains. Et chacun de ces enfants, dans chacun de ces enfants se trouve Dieu. Tu cherches le Messie, il est là. Tu cherches Dieu, il est là. Enfin, justement, un déplacement concernant Dieu, celui qui l'a envoyé. Il ne vit pas sur un nuage ou au fin fond de l'univers, mais sa vie se tient dans chacune et chacun de ces petits que l'Esprit du Christ place devant nous sur nos chemins de vie. Chacun de ces chemins est unique et personnel, et chaque petit qui se trouve là, en lui se trouve l'Éternel. Alors saurons-nous y discerner celui qui a suscité sa parole parmi les hommes, et saurons-nous sortir de nos enfermements pour voir l'autre, voir le petit, le fragile? Nous arrêterons-nous pour l'écouter, pour l'aider, pour échanger, pour le servir, et pour sortir grandi de cette rencontre, pour recevoir aussi de cette rencontre? Voilà quelques questions avec lesquelles nous laisse ce passage. Ce qu'on peut peut-être retenir pour nous de ces trois séquences, en tout cas ce matin, c'est que l'Esprit de Christ, aujourd'hui encore, désire nous parler, nous enseigner, nous faire grandir. Alors méfions-nous de nous-mêmes, de ne pas botter en touche, en refusant de voir, en refusant d'entendre, en refusant d'en savoir plus, en refusant de voir notre foi ébranlée, pour en sortir grandi. Parce que toujours plein de nous-mêmes, nous risquons bien alors de rester enfermés, enfermés seuls avec nous-mêmes, malgré tous les likes du monde. C'est de cet enfermement que nous sommes appelés à nous extraire, que l'Évangile nous appelle à sortir, pour rendre inutile, du coup, arrêter peut-être aussi tout ce qui est de l'ordre de la comparaison en nous. Nous sommes alors rendus un peu plus capables d'entendre et de servir. Qui est le plus grand? Jésus prend un enfant en exemple pour montrer quel est le chemin qu'on doit suivre si on veut devenir grand. Il faut partir petit. Alors, n'ayons pas crainte de partir petit, qui que nous soyons. Une fois encore, la réponse de Jésus est assez déconcertante. On ne s'attendait pas à ça. Il faut quitter, pour la comprendre, notre logique humaine pour entrer dans la logique divine. Cette logique qui veut que les premiers soient les derniers et les derniers premiers. Cette logique qui nous rappelle que les petits-enfants sont plus près que nous du cœur de Dieu. Cette logique qui veut que ce soit dans le petit, dans le faible, l'enfant, le serviteur, que se cherche l'âme de Dieu. Amen.